Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la révolte au Liban et à ses racines historiques. La révolte donc qui est en cours au Liban depuis le 17 octobre et qui continue jusqu'à aujourd'hui, puisque nous enregistrons donc début décembre 2019. Et pour en parler, nous sommes avec Joey Ayoub, écrivain, chercheur et rédacteur sur le Moyen-Orient et l'Afrique pour Global Voices et IFEX, et qui participe au soulèvement en cours et qui a été également un membre assez important du mouvement de 2015 au Liban. Donc bonjour Joey.
Bonjour.
On pensait que c'était un peu essentiel de commencer cette émission sur le Liban par une contextualisation. Qu'est-ce que c'est que le confessionnalisme et pourquoi est-ce qu'il occupe une place aussi importante au Liban? Parce que souvent, en France, on a une lecture du confessionnalisme, c'est-à-dire en fait du fait que l'appartenance à telle ou telle communauté religieuse a une importance politique, économique, sociale, cruciale au Liban, et que même le pouvoir est divisé en fonction d'une répartition confessionnelle entre le président qui doit être maronite, le premier ministre qui doit être sunnite, et le président du parlement qui doit être chiite. On pourrait avoir une lecture un peu essentialiste et orientaliste du Liban complexe, où en fait cette répartition serait simplement liée au fait que voilà, il faut bien faire cohabiter des communautés religieuses qui sinon se feraient la guerre tout le temps, et c'est un petit peu la lecture un peu orientaliste classique qu'on a du Liban, alors qu'en réalité le confessionnalisme est une construction historique liée à des facteurs sociaux, économiques, géopolitiques qui datent d'il y a un siècle et demi, du milieu du 19e siècle. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est que le confessionnalisme aujourd'hui dans la société, dans la politique libanaise? Pourquoi est-ce que ça a une importance aussi forte? Et comment est-ce que le confessionnalisme est né et il a évolué jusqu'à aujourd'hui?
Bon, comme vous avez dit, ça a commencé, enfin il y a des historiens qui disent que ça a commencé encore plus tôt, mais on peut commencer dans les années, 1860, il y a eu la guerre civile, une des premières guerres civiles au Liban, qui a invité, si vous voulez, une intervention de l'Occident, notamment la France, et cela a créé ce qu'on appelait le Mont Liban, donc Montasarifa du Mont Liban, durant au sein de l'Empire ottoman. Bon, ça a continué jusqu'à notamment la fin de la Première Guerre mondiale, et puis après il y a eu le mandat français, et puis en 1943, le Liban a déclaré l'indépendance, mais a déclaré l'indépendance au sein d'un contexte qui est assez important et assez intéressant, qui s'appelle donc le pacte national. Et le pacte national, qui, à ce que je comprends en fait, était assez informel, et il est toujours informel. C'était plutôt un accord entre les élites, surtout élites chrétiennes et sunnites, à créer ce système qu'on appelle le système confessionnalisme. Donc ça a été codifié d'une façon ou d'une autre, et puis on avance jusqu'à la guerre civile, 1975-1990. Et c'est après 1990 que le système qu'on appelle confessionnalisme, qu'on voit en tout cas dans sa manifestation présente, a commencé. La codification du confessionnalisme date vraiment des années 1860, comme j'ai dit, mais ça a pris différentes manifestations et ça a toujours eu une sorte d'intersection avec notamment, bien sûr, la classe, donc les relations entre les élites, disons, chrétiennes, sunnites et druzes avant la guerre civile et puis après la guerre civile, surtout, les élites chiites se sont rejoints à ces élites-là et ça a créé une sorte de sectarisme organisé, si vous voulez. Donc, c'est pas complètement chaotique. Ça a une sorte de logique interne. Et c'est une des raisons pour laquelle ça a été si difficile jusqu'à présent de pouvoir le renverser.
Oui, je pense qu'effectivement, tu t'as bien résumé la naissance un peu de ce système confessionnel. En fait, si on suit Fawaz Trabulsi, même si Fawaz Trabulsi, il y a également des aspects un petit peu controversés, notamment dans le sens où il a tendance à un petit peu trop plaquer la classe sur la communauté, comme si les communautés formaient elles-mêmes des classes, alors même que elles ont toujours eu une stratification interne, ces différentes communautés, avec plutôt une élite dominante, comme tu as bien dit, qui représente souvent les plus ardents défenseurs du confessionnalisme, puisqu'ils en tirent le plus de profit, et puis évidemment une classe moyenne et une classe populaire. Fawaz Trabulsi, lui, il explique la naissance du confessionnalisme libanais par la rivalité autour du Mont Liban dans les années 1840-1850 entre une élite propriétaire terrienne druze, d'une part, et d'autre part, une bourgeoisie commerciale montante maronite. Et donc, l'ascension un petit peu de cette bourgeoisie maronite aurait entraîné de la part des élites druzes qui ne voyaient pas d'un bon œil, disons, leur hégémonie politique menacée. Voilà, une manipulation un petit peu de la question confessionnelle et qui a abouti, comme tu l'as bien dit, à une guerre civile. On voit que finalement, à l'origine de ce confessionnalisme, il y a déjà finalement des questions de rivalité économique entre l'aristocratie foncière druze et la bourgeoisie maronite. Et il y a également une question géopolitique, puisque la Grande-Bretagne soutenait plutôt historiquement la communauté druze, enfin, c'est-à-dire très, très pratiquement l'élite druze contre l'Empire ottoman, alors que les Français, eux, soutenaient plutôt l'élite maronite contre l'Empire ottoman et aussi contre les druzes par la même occasion. Donc on voit un petit peu comment est-ce que la création de ce système confessionnel est basée, voilà, sur des rivalités économiques, sociales et géopolitiques. Et d'ailleurs, le premier système confessionnel, c'est, voilà, celui dont tu as parlé, celui qui a cette espèce d'entité semi-autonome du Mont Liban à partir de 1860-1861. Et déjà, le pouvoir au sein de cette espèce de mini-État était réparti en fonction des confessions, où les chrétiens d'ailleurs avaient, de manière statutaire, la majorité. Donc, en fait, on pourrait dire que le système confessionnel n'est pas la tentative de résolution pacifique, entre guillemets, de conflits confessionnels qui seraient essentiels à la nature des communautés religieuses au Liban, mais en réalité, c'est plutôt une tentative d'accord entre les élites des différentes confessions pour à la fois maintenir le système confessionnel, qui a énormément d'avantages pour les élites, puisque évidemment ça leur permet de contrôler au nom de la confession toute leur communauté et du coup d'amoindrir aussi les contestations de leur pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, hein, on voit bien comment est-ce que la communauté chiite a eu beaucoup de mal, même si là maintenant elle participe aux mobilisations, à se défaire de l'emprise du Hezbollah et de Hamal. Et donc ce système confessionnel tel qu'il existe aujourd'hui, voilà, c'est essentiellement un accord entre les élites des différentes communautés pour maintenir un système communautaire qui leur permet à la fois de se partager le pouvoir de manière relativement consensuelle, même si bon, le moment de la guerre civile, pour le coup, marque justement un moment non consensuel de ce partage du pouvoir, et d'autre part, ça leur permet aussi de contrôler leur communauté respective.
Oui, en effet. Et si on parlait un peu de comment ils contrôlent, c'est pas juste que nous avons, disons, une dizaine de chefs de guerre ou de ex-chefs de guerre, en tout cas, ou de businessmen. Ils donnent l'ordre et tout le monde suit ce qu'ils disent. C'est pas vraiment comme ça, bien sûr. C'est plutôt, il y a une sorte de réseau qui se fait à travers d'intermédiaires. Donc, tu as, par exemple, disons, juste pour donner un exemple, si on veut parler de Nabih Bereh, qui est le leader de d'Amal et qui est le président du Parlement, voilà, depuis 1992. C'est pas que il se met, tu vois, derrière la télé, il voit ce qui se passe, et puis il dit, bon, descendez et cassez-les. Donc, ça se passe pas comme ça. Il donne des ordres, mais tu as d'autres, des intermédiaires que c'est eux vraiment qui contrôlent certaines régions au sein de la région qui est dominée, disons, ou des quartiers, en tout cas, qui sont dominés par le mouvement Amal politiquement. Et cette domination n'est pas juste une domination politique dans le sens de combien de votes ils reçoivent chaque, je sais pas combien d'années et tout ça, c'est plutôt un contrôle physique, c'est un contrôle violent. Donc, ils ont leur drapeau, ils ont leur une présence. Ils se montrent pas nécessairement tout le temps. Ils se font visibles quand il y a une certaine menace. Donc, la menace qu'on est en train d'en parler maintenant, ça fait depuis le 17 octobre. Cette menace, c'est, vient de chants contre le sectarisme. Et pour eux, c'est ça, ça c'est vraiment la menace. La menace, c'est pas perdre, je sais pas, 10 000 votes au Parlement et tout ça. C'est pas aussi important que de se trouver au sein d'une population qui n'arrive plus à suivre, une certaine façon de faire les choses. Et donc, pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est que le sectarisme au Liban, ça a toujours été un système qui se renforce. Donc, c'est pas que il a une logique à long terme, c'est pas qu'ils arrivent à penser à ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 20 ans, dans 30 ans, c'est plutôt qu'ils arrivent à se contrôler parce qu'ils contrôlent l'espace et d'une façon ou d'une autre, ils contrôlent le temps. Donc ils arrivent à contrôler une sorte de temporalité et ils arrivent à limiter l'imagination des Libanais ou des citoyens libanais ou même des, disons, les résidents du Liban, parce qu'il y a plusieurs personnes, bien sûr, au Liban qui ne sont pas officiellement citoyens, mais qui sont notamment victimes du même système. Et donc voilà, nous nous retrouvons dans une situation, voilà, presque 2 mois, enfin un mois et demi, je pense, voilà, où nous sommes vraiment en train de voir une certaine façon de faire les choses, ce qu'on appelle, sont en train d'appeler le confessionnalisme ou le sectarisme, qui n'est plus vraiment en train de marcher. Et donc nous sommes en train de voir maintenant une vague contre-révolutionnaire de la part du gouvernement qui est en train de prendre plusieurs formes. Donc c'est pas juste seulement la forme violente, c'est la forme la plus évidente, mais plutôt une forme de propagande basée sur la peur, sur le risque du choc économique, sur la peur des étrangers, notamment les Syriens, etc. etc.
Oui, c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant finalement dans cette révolte, c'est que c'est peut-être la première révolte qui unit une grande partie des classes populaires et des classes moyennes libanaises contre les classes dominantes confessionnelles. Et c'est une révolte qui est inédite et on comprend aisément pourquoi quand on prend la mesure du poids du système confessionnel dans le système libanais. C'est-à-dire que depuis les années 1850-1860, le pouvoir politique au Liban, bon d'abord le Mont Liban, puis le mandat Liban à partir de 1920, puis le Liban indépendant à partir de 1943, est partagé entre les différents élites communautaires, mais aussi... Il n'y a pas que le pouvoir politique, ça c'est un petit peu la pointe émergée de l'iceberg. Il y a aussi les postes dans l'administration qui sont partagés entre les différentes communautés. Il y a aussi les contrats publics qui sont partagés entre les businessmen des différentes communautés et ces businessmen capitalistes sont souvent liés eux-mêmes aux différents partis. Il y a également le partage des emplois, même le partage des ministères, des services publics. Donc d'une part, ça fait qu'il y a une imbrication très forte entre la bourgeoisie et les élites politiques de telle ou telle confession, puisque évidemment, il y a une redistribution de l'argent. En fait, on peut dire que l'État libanais, c'est un État où différentes élites confessionnelles se sont appropriées une partie du gâteau qui change en fonction du temps. Et la guerre civile, malheureusement, hein, c'est un petit peu quand même triste de le dire, mais avait aussi... pour but de la part de certaines élites de remettre en cause cette part du gâteau. Et par contre, l'élite maronite ne voulait pas partager un petit peu plus le gâteau. Et donc, cet État qui est partagé comme un gâteau, eh bien évidemment, les élites politiques, du fait qu'elles ont le pouvoir sur la redistribution de l'argent de l'État, vont s'attirer évidemment les capitalistes des différentes communautés. Et d'ailleurs, les capitalistes de ces différentes communautés sont souvent des capitalistes de connivence, hein, des crony capitalists, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, voilà, c'est des capitalistes qui réussissent parce qu'ils sont liés à l'État et à tel parti. Et puis, ça, c'est l'autre côté. Et ça explique pourquoi est-ce que le système confessionnel ne tient pas que par la violence. Mais les gens sont réellement dépendants de ce système confessionnel dans le sens où pour avoir un emploi, pour avoir des réductions, pour avoir accès à un logement, pour s'informer, pour avoir accès à des services culturels ou religieux, etc., il faut passer dans le moule du confessionnalisme. Et ce qui fait que, et c'est ça qui explique pourquoi est-ce que les gens ont eu énormément de mal à se révolter contre ce système confessionnel, c'est qu'ils en font partie d'une certaine manière, qu'ils le veuillent ou non. Et peut-être que tu pourrais développer un petit peu sur, effectivement, comment est-ce que les gens sont pris dans ce système confessionnel et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, et peut-être un petit peu déjà aussi en 2015, ils ont réussi un petit peu à sortir de cette prison du système confessionnel, peut-être aussi parce que il y a un mécontentement très large contre finalement voilà, l'économie qui a émergé à partir des années 90, de la reconstruction, qui promettait la croissance économique, mais qui en réalité n'a offert que la précarité pour une grande partie des Libanais.
C'est comme si on essayait de comparer notre mouvement à un mouvement anticapitaliste. Donc je dirais pas que la révolution libanaise, ou enfin le soulèvement, ou c'est pas qu'on peut l'appeler comme on le veut, est arrivé à un niveau où on peut dire qu'elle est anticapitaliste. Il y a certainement assez de manifestants qui sont anticapitalistes, mais tu vois, si tu participes à une manif qui est anticapitaliste, ça veut pas dire que le capitalisme s'est arrêté. On en fait partie, qu'on le veuille ou pas. Moi, je fais partie d'une certaine communauté, d'une certaine secte, d'une certaine, voilà, la classe moyenne et tout ça. J'ai des avantages, j'ai des désavantages, il y a des trucs qui sont en dehors de mon contrôle. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle ça a été si difficile d'avoir une révolution comme on l'a vu, disons, en Syrie. C'est pas qu'en Syrie, c'était plus facile, bien sûr que non. C'est plus qu'en Syrie, il y avait la figure de... Enfin, il y a toujours la figure de Bachar al-Assad. Et donc, il y a un régime, il y a un système qui est centralisé autour d'une personnalité, donc Bachar al-Assad, ou Muammar Kadhafi, Moubarak, etc. Au Liban, tu n'as pas ça. Ça n'existe pas vraiment. Donc au Liban, on peut vraiment dire qu'il y a une certaine complicité, d'une façon ou d'une autre, d'une grande partie de la population. Ça ne veut pas dire que complicité dans le sens où, tu vois, je me réveille chaque matin et je me dis « je vais faire ça, je vais faire ça ». C'est plutôt qu'il y a une certaine structure, ou plusieurs structures d'ailleurs, qui encouragent une certaine logique sectaire, qu'on le veuille ou pas. Donc, pour moi, je pense qu'il est assez utile, il est assez utile de penser à ce soulèvement comme ayant une dimension à la fois réformiste et une dimension révolutionnaire. Donc, la dimension réformiste est assez simple. C'est contre la corruption, contre l'injustice, contre contre tout ça. Alors que la révolution, c'est la révolution contre le sectarisme. C'est pour ça que pour moi, c'est comme si on avait une manifestation qui est anticapitaliste, mais qui en même temps a une demande qui est un peu plus réformiste, tu vois. Donc il y a une certaine loi qui est injuste. On veut se débarrasser de cette loi, et en même temps, au sein de cet espace-là qui est créé, nous avons des gens, des manifestants qui sont plus de gauche que d'autres, etc. Et c'est ça la situation. Donc pour moi, la dimension réformiste, c'est la dimension qui est la plus simple d'une façon, bien qu'elle est déjà, elle est aussi assez compliquée. Et elle est assez compliquée parce qu'elle est liée à la dimension révolutionnaire. Donc si c'était juste une question de tacler la corruption, donc tu sais, on peut juste, je sais pas, créer un ministère contre la corruption, et puis on se dit, ok, cette personne-là ou ce ministère-là va tacler cette question. Mais c'est qui qui va les tacler? Le président est un ex-chef de guerre. Le président du Parlement est un ex-chef de guerre. Le premier ministre, ou maintenant il est plus premier ministre, il a hérité sa fortune de son père qui était aussi premier ministre. Le leader des forces libanaises, il était un chef de guerre. Le leader des forces progressives socialistes, ou je sais pas comment il s'appelle en français, était aussi un ex-chef de guerre. Et donc, bien sûr, le leader de Hezbollah est encore un chef de guerre. Donc, c'est pas qu'on a vraiment un état civil ou un État, disons, laïque, pas dans le sens français, mais juste dans le sens non sectaire, un État où il y a une séparation entre l'Église ou la mosquée et l'État. C'est pas qu'on n'a pas ça, mais que c'est structurellement presque impossible à y arriver. Et c'est pour ça que la révolution au Liban, celle de 2019, et disons aussi si on veut inclure le soulèvement en 2015, dont j'ai fait aussi partie, on a toujours eu ce genre de problème, parce que ça n'a jamais été facile de pouvoir se dire, OK, on va se concentrer sur cette personne-là. On va se concentrer sur ce leader-là, on va se concentrer sur ce businessman ici. Parce que si, par exemple, on se concentre sur un businessman qui est sunnite, il peut y avoir quelques personnes, et d'ailleurs, ce businessman lui-même peut faire cet argument que pourquoi est-ce que vous attaquez pas à ce businessman X chiite ou X chrétien ou X druze, quoi. Et donc, ça a toujours été une sorte de conflit interne qui a été, c'est compliqué aussi, bien sûr, par des forces extérieures, ça c'est évident, mais fondamentalement, ça a été depuis les années 1990, ou si on veut être un peu plus technique, depuis 2005, quand il y a eu la révolution du 7 qui a mis fin à l'occupation syrienne, ou même après 2006, bien sûr, parce qu'il y a eu la guerre israélienne sur le Liban. Donc, on peut dire au moins, ça fait, presque 15 ans, 14 ans, presque 14 ans, il y a plus en plus d'obstacles parce que il y a eu cette création de deux camps, donc le 8 mars et le 14 mars, qui n'existent plus vraiment de la même façon qu'ils ont existé avant 2016 d'ailleurs, on peut en parler un peu, mais qui créaient une sorte de réalité économique, de réalité politique qui est assez difficile de combattre, qui est assez difficile de vouloir complètement le soulever, quoi.
Je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez important dans ton article qu'on va mettre en lien sur le site de Sortir du Capitalisme pour ceux qui lisent l'anglais. Cette espèce de tension entre réforme et révolution est liée vraiment à la nature du système confessionnel libanais. C'est-à-dire que finalement, c'est à la fois la force et la faiblesse du système confessionnel libanais d'être comme il est. C'est-à-dire que sa force, c'est que finalement, c'est très difficile de le remettre en cause en partie, comme par exemple, on a pu remettre en cause Moubarak sans remettre en cause le pouvoir de l'armée, ce qui a abouti à une contre-révolution finalement en Égypte, ou de remettre en cause le pouvoir de Ben Ali sans finalement remettre en cause le pouvoir de l'élite tunisienne, ce qui a abouti à une forme de contre-révolution, même si elle est plus modérée qu'en Égypte. Là, dans le système confessionnel libanais, il faut tout rejeter en bloc, parce que finalement, d'une certaine manière, tous les partis sont au pouvoir. Et toutes les élites sont au pouvoir. C'est pas une élite en alternance avec une autre. Et donc, c'est ça qui fait que, jusqu'à 2019, il y a toujours eu un blocage réussi finalement des tentatives de mouvements transconfessionnels contre l'ensemble du système confessionnaliste, parce qu'il y avait toujours au moins une force politique bourgeoise confessionnelle qui arrivait à tenir sa clientèle, hein, puisque malheureusement, une bonne partie de la population libanaise est clientélisée par les partis communautaires qui contrôlent une grande partie de leur vie, hein. Il suffit de penser au Hezbollah, et le Hezbollah avait quand même réussi, par exemple, le Hezbollah et Hamal avaient plutôt bien réussi dans les mouvements précédents à bloquer la participation chiite, ce qui faisait que c'était plus vraiment un mouvement transconfessionnel contre tout le système confessionnaliste, et du coup, évidemment, ça constitue une forme de limite objective au mouvement précédent, comme celui de 2015. Et en même temps, la faiblesse de ce système confessionnaliste, c'est que, eh ben précisément, on ne peut pas en remplacer un sans remplacer tous les autres. Et d'où le slogan hyper important aujourd'hui de qu'ils s'en aillent tous, mais vraiment tous, qui est vraiment au cœur des mobilisations depuis le 17 octobre. Et là, c'est ça la dimension finalement révolutionnaire. C'est que la population rencontre des problèmes concrets sur lesquels elle veut des améliorations réformistes en termes de corruption, d'emploi, d'électricité, de services publics, etc., etc., pour finalement s'attaquer vraiment, pour qu'il y ait un véritable changement sur ces manifestations, elle ne peut pas demander des réformes sur tel ou tel point ou le changement de tel ou tel ministre, elle est d'une certaine manière obligée de s'attaquer à l'ensemble du système. Et donc finalement, ce qui était la force du système confessionnaliste jusqu'à aujourd'hui, est en train de devenir sa faiblesse, c'est-à-dire que, en fait, si les gens veulent véritablement des améliorations, ils doivent s'attaquer à l'ensemble du système confessionnaliste, d'où le fait que aujourd'hui, bien, les élites ont extrêmement peur de ce soulèvement, dans le sens où il remet en cause l'intégralité du système confessionnel. Une partie de leur demande, c'est des élections qui ne se fassent pas sur un mode confessionnel, c'est-à-dire où il y a tant de députés pour les chiites, tant de députés pour les sunnites et tant de députés pour les maronites, hein, puisque c'est le cas aujourd'hui. Et donc c'est révolutionnaire dans ce sens-là. Ce n'est pas révolutionnaire dans un sens anticapitaliste, mais c'est révolutionnaire dans le sens où ça vise à l'abolition du système confessionnaliste actuellement au Liban. Et donc ça fait que jusqu'à aujourd'hui, finalement, l'élite arrivait toujours à diviser la population libanaise avec un discours sectaire communautariste. Et que il semble ne plus y arriver. Il y a des tentatives de récupération du mouvement dont tu parles, par exemple du côté des forces libanaises. Et puis il y a aussi tout le jeu répressif de Hamal et de Hezbollah. Et puis j'ai oublié le dernier facteur, c'est qu'il y a eu aussi une tentative. Voilà, il y a eu un certain nombre de discours racistes et xénophobes contre les réfugiés syriens et palestiniens, les réfugiés syriens ayant été accusés de tous les maux, y compris d'un gigantesque incendie au Liban qui a eu lieu mi-octobre. Voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les dimensions, la dimension transconfessionnelle de ce mouvement, qui est vraiment inédite, et sur ses slogans, ses modalités d'action comment est-ce que ça se passe dans les différentes régions, etc., etc.
Oui, en fait, je vais retourner un peu aux incendies parce que je pense qu'ils symbolisent un peu le problème dont l'on parle. Donc, dans la nuit du 13 au 14 octobre, il y a eu des incendies qui ont ravagé le Liban et même certaines régions de la Syrie. La raison pour laquelle, enfin, une des raisons pour laquelle il y a eu cinq incendies qui a détruit, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai le chiffre devant moi, jusqu'à 3 millions d'arbres en juste 48 heures. Une des raisons, à part réchauffement climatique et tous ces problèmes-là qui affectent notre planète en entier, c'est que le gouvernement n'a vraiment pas fait son boulot, si vous voulez. Le Liban avait que 3 hélicoptères qui n'ont même pas été achetés, ils ont été donnés. Et ils étaient juste à l'aéroport, ils étaient assis à l'aéroport parce que ils étaient tombés en désuétude. Et donc parce que le gouvernement les entretenait pas. Bien qu'il y avait des fonds qui étaient alloués, etc. C'est comme d'habitude, les fonds au Liban, tu vois, ils disparaissent. Ils disparaissent soit au sein de la main des élites sectaires. Bon, les incendies ont finalement été éteints, mais ils ont été éteints d'une façon par une combinaison de fonctionnaires volontaires et notamment aussi des habitants de camps réfugiés palestiniens et aussi des volontaires de la région, quoi, des volontaires au hasard. Et puis aussi il y a eu des avions qui ont été envoyés par la Jordanie, la Chypre, la Grèce et on a eu la pluie. Mais le fait qu'il y a eu ces incendies là. Et puis, deux jours plus tard, il y a eu la taxe WhatsApp, que je pense la majorité des médias se concentrent là-dessus un peu trop. Pour nous, c'est pas le fait qu'il y a eu la taxe WhatsApp en elle-même ou qu'il y a eu les incendies en eux-mêmes, c'est le fait qu'ils se sont passés en la même semaine, au sein de la même semaine. Et la réaction du gouvernement après, enfin, même durant les incendies, c'était de jouer cette carte sectaire. Donc, l'exemple que moi j'ai utilisé dans un de mes articles, c'est Mario Hand, qui est un des politiciens du mouvement patriotique libre, dont le président et le ministre de l'extérieur en font partie. Il se plaignait que les incendies ne concernaient que des zones chrétiennes. Alors que les incendies étaient au fait dans la région du Chouf, qui est à majorité druze. Et donc il y a eu ce genre de jeu. Ils ont même accusé des Syriens, comme tu as mentionné, à je sais pas commencer les feux ou même à ils ont accusé les Syriens à s'emménager, à rentrer dans des maisons qui ont été abandonnées par des Libanais. Enfin, vraiment n'importe quoi. On peut pas dire que ça a marché parce que la colère s'est maintenue. Et puis, si, par exemple, le gouvernement avait décidé de ne rien faire et de ne passer aucune loi, etc., c'est possible, c'est assez possible qu'il n'y aurait pas eu cette révolution. Mais ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'aggraver la situation. Le 17 octobre, donc, durant la journée, l'État a approuvé un projet de loi qui taxerait les appels téléphoniques via Internet, notamment WhatsApp, qui est le plus populaire au Liban. Ils ont présenté cela comme une sorte de tentative de générer des revenus supplémentaires pour débloquer plus de 11 milliards de dollars d'aide promises lors de cette conférence CEDRE qui s'est notamment déroulée à Paris. Ces, en guillemets, réformes comme d'habitude, c'était plus ou moins des, enfin, essentiellement des mesures qui punissent davantage la majorité économique, comme j'ai écrit, de rang inférieur, à l'exception de la minorité supérieure. Donc, le fait qu'il y a eu cette, qu'enfin, ça fait plusieurs mois, là, même plusieurs années, qu'il y a cette crise économique, qu'ils sont pas en train de résoudre, au niveau politique et bien sûr pas au niveau économique parce que les deux sont liés en tout cas. Donc le fait que ça fait plusieurs années là qu'ils sont en train de d'utiliser la même carte sectaire et le fait qu'en même temps il y a ces situations économiques qui continuent à se détériorer fait en sorte que voilà cette carte sectaire n'est plus en train de marcher de la même façon. Elle marche toujours, c'est pas que du jour au lendemain tu as tout le monde qui est complètement laïque et personne s'identifie comme chiite ou maronite ou je sais pas quoi comme identité primaire, c'est pas ça. C'est plutôt que voilà, il y a une certaine façon de faire les choses qui n'est plus en train de marcher. Et donc ça nous a donné une sorte d'opportunité, surtout la première semaine, les deux premières semaines qui étaient vraiment pour moi une sorte ça passe ou ça casse une situation pareille, qu'on a vraiment vu une unité transsectaire, même antisectaire, sous la forme de Shaaburi, de Scott Tennison, donc le peuple demande la chute du régime, ou l'autre revendication qui est Kullon Yaani Kullon, donc tous veut dire tous. Et donc la raison pour laquelle nous sommes en train de dire Kullon Yaani Kullon, bon, on demande que le gouvernement démissionne, mais c'est aussi une façon de résister toutes sortes de cooptations de certains partis politiques, notamment les forces libanaises et le Parti progressiste socialiste, donc Samir Jaja et Walid Jumblatt, et d'une certaine façon aussi les supporters de Saad al-Hariri qui a démissionné en tant que Premier ministre le 29 octobre. C'est ces trois partis-là, donc le Mouvement du Futur, les forces libanaises, le Parti socialiste progressif, et même les Kataïb, les phalangistes, je pense en français, les phalanges, ça fait 50 jours qu'ils essayent de coopter ce mouvement. Donc Kullon Yaani Kullon, c'est une façon de dire que non, on refuse. De l'autre côté, nous avons les partis qui sont historiquement partis de cette alliance, donc du 8 mars, donc Hezbollah, Amal et le mouvement patriotique libre, qu'ils essayent de se maintenir au pouvoir, parce que maintenant, et c'est important de le dire, le gouvernement en lui-même, c'est Hezbollah, Amal, le mouvement patriotique libre et le mouvement du futur. Donc, et les forces libanaises ont aussi quelques membres au Parlement. Donc, c'est question de voir le système libanais, le système en tout cas depuis 2016, et on peut vraiment retourner aux années 90, comme un système uni, même s'il y a des divisions au sein du système sectaire, ils ont beaucoup plus de choses qui les unissent.
Par rapport à la question de la crise économique, il semblerait que la stratégie du gouvernement soit celle d'une sorte de pourrissement de la situation, c'est-à-dire que depuis la démission de Saad Hariri le 29 octobre, qui a été d'une certaine manière la première grande victoire du mouvement, d'une certaine manière, le général Aoun, donc qui est au pouvoir et qui fait partie donc de la coalition du 8 mars avec Amal et le Hezbollah, eh bien, est un peu dans l'inaction. Et d'une certaine manière, on a l'impression que le système confessionnaliste compte sur l'éclatement d'une crise économique grave et notamment d'une pénurie de médicaments, d'essence, etc. Des phénomènes qu'on commence à apercevoir. Pour voilà, mettre fin au mouvement. Et cette crise économique est elle-même liée voilà, à l'histoire hein, du Liban, qui est l'histoire économique du Liban, qui est un petit peu complexe, qu'on peut résumer peut-être de la façon suivante. D'une part, la crise actuelle est liée à un endettement énorme de l'État, qui est lui-même lié au fait que l'État sert donc à la fois de gâteau dont on pille les richesses en fonction d'une répartition confessionnelle figée dans la répartition entre les différentes élites confessionnelles du pouvoir, des places dans l'administration, des contrats publics privés, etc., etc. Et puis aussi dans le fait que les banques libanaises s'enrichissent énormément de la dette publique. Et puis d'autre part, c'est lié au fait que le Liban est un pays qui est... Depuis assez longtemps, depuis le milieu du 19e siècle, mais surtout depuis les années 60-70, un pays est quasi exclusivement tourné vers le commerce international, l'exportation, la finance, le secteur des services, etc., etc. Et donc, c'est une économie qui est extrêmement dépendante, voilà, du capital international et notamment du capital du Golfe, du dollar. Hein. Le dollar a une place dans l'économie libanaise, même au quotidien. Ça, c'est quelque chose d'assez peu connu. Et donc, cette dépendance finalement de l'économie libanaise vis-à-vis de ces flux financiers en dollars, qui sont des flux à la fois financiers liés à l'utilisation des banques libanaises comme intermédiaires entre, d'une part, l'Occident et d'autre part, les pays du Golfe. Et puis aussi, pour l'exportation, mais aussi, il y a aussi des investissements très importants au Liban, de la diaspora ou des pays du Golfe, pour, sur l'immobilier, sur le tourisme, etc. Hein, depuis les années 90, la reconstruction du pays a été essentiellement une espèce de gigantesque poule aux œufs d'or pour les investisseurs étrangers qui a peu bénéficié finalement à la population, qui se retrouve avec des logements extrêmement chers. D'ailleurs, cette nature particulière de l'économie libanaise explique aussi pourquoi est-ce que le Liban est un pays extrêmement inégalitaire, avec d'une part une partie de la population qui bénéficie de l'intégration du Liban dans un système capitaliste international, et d'autre part des gens qui sont obligés de survivre avec l'économie informelle et la charité organisée par les partis confessionnels. Tout ça fait que le Liban, extrêmement dépendant donc des capitaux internationaux, ces capitaux internationaux, depuis quelques mois, ces afflux de capitaux internationaux sont en régression. Et ce qui fait que comme l'économie libanaise ne peut tourner qu'avec ses capitaux internationaux, actuellement, on a une crise financière, économique, de plus en plus grave. Alors d'une part, on peut se dire que c'est une stratégie de pourrissement de la situation du gouvernement qui pourrait donc se retourner contre la contestation. Mais en même temps, je me disais, est-ce que cette stratégie de pourrissement, elle n'est pas dangereuse quand même pour le gouvernement ? Dans le sens où, même si ça pourrait éventuellement diviser le mouvement, notamment en termes de classe, et ça pourrait évidemment conduire à des tensions communautaires, est-ce que ça pourrait pas également conduire à ce qu'on a observé ailleurs dans le monde, à des formes d'émeutes qui, là, donneraient une dimension plus anticapitaliste au mouvement ? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça ?
Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que le gouvernement est plutôt en train de faire un pari plutôt qu'autre chose. C'est pas qu'il y a vraiment un plan de longue durée du tout, quoi. C'est il y a juste une façon de faire les choses, comme on reste à dire que le gouvernement, surtout, enfin, quand on dit le gouvernement, c'est vraiment les mêmes élites que, 15 ans ou même d'autres, ça fait même 30 ans qu'ils sont au pouvoir. Et il y a même d'autres qui savaient beaucoup plus que ça. Donc, ceux d'entre eux qui datent de la guerre civile, ça fait 40-50 ans, quoi. Ils ont une certaine façon de faire les choses qui a, jusqu'à présent, qui leur a bénéficié. Et ça va continuer, ça peut continuer à les bénéficier, mais ce qui est vraiment en train de changer, c'est pas ça. C'est le fait que le reste de la population n'est plus en train de se trouver dans une situation qui est relativement stable. Donc, ça a toujours été important au Liban, le fait que le Liban est relativement stable. Donc ça peut paraître peut-être absurde quand la majorité des gens, je pense à l'Occident ou même au reste du monde, pensent au Liban. Je pense pas qu'ils pensent à la stabilité. Mais le Liban est relativement stable. Nous avons pas une guerre civile comme en Syrie. Nous avons pas eu de guerre civile comme en Irak. Ça fait plusieurs années. Et il y a cette peur que ça peut avoir des répercussions qu'on n'arrive plus à contrôler. Cette peur-là a toujours été là. Elle est toujours présente jusqu'à présent. Et c'est la seule chose que je pense que le gouvernement on est vraiment conscient. Ceci dit, comme ça fait 2 mois qu'il y a une certaine façon de faire les choses qui n'est plus en train de marcher, et nous sommes en train de le voir à travers les chants qui sont anti-sectaires, le fait que tu as des manifestants à Tripoli au nord qui disent des choses comme "Rouh bedem nafdi ki nabatiye", donc en sang et en esprit nous sommes avec toi, nabatiye, donc la région chiite du sud, et Tripoli c'est une région sunnite du nord. Le fait qu'il y a des gens à Beyrouth qui sont en train de chanter pour le Mont Liban et pour la Beka, etc., etc. C'est en train de créer une nouvelle façon de faire les choses que le gouvernement, les élites gouvernementales ne savent pas comment. C'est un espace au sein duquel ils ne savent pas exister. Et je pense que c'est ça. L'opportunité et en même temps le risque. Donc l'opportunité parce que ça nous donne l'opportunité de créer une sorte de Liban qui est au moins séparé de cette logique sectaire. En même temps, c'est un risque parce que nous sommes en train faire face à des ex ou actuels chefs de guerre et d'autres qui ont des milices, même s'ils sont eux-mêmes des businessmen, ils ont des milices associées à leur parti politique, parce que le Liban, c'est un pays d'après-guerre, mais un pays où la guerre ne s'est pas terminée sous condition de réconciliation ou de paix réelle. Il y a eu en 1990 la fin de la guerre civile, oui, mais c'était une paix imposée, notamment par le régime syrien avec l'accord de la soi-disant communauté internationale qui a été signée avec l'accord de Taif, donc dans la ville de Taif en Arabie Saoudite. Mais entre 1990 et 2005, nous avons vu l'occupation syrienne, et entre 1982 et 2000, nous avons vu l'occupation israélienne du sud Liban. Donc le Liban n'a jamais eu assez de temps, donc ma génération, donc la génération d'après-guerre, n'a jamais eu assez de temps de pouvoir même expérimenter, de faire des fautes, de pouvoir créer des liens en dehors des liens confessionnels. Ça ne veut pas dire que moi, par exemple, j'ai pas des amis qui sont pas de la même confession. C'est assez commun, en fait, d'avoir des amis d'à travers les confessions. Mais ça reste limité. Ça reste limité au sein de l'université, au sein du travail, au sein de parfois de la famille. Mais le Liban, bien que c'est un pays assez petit, il est divisé par région et par secte. Donc, c'est pas que par secte, il est aussi divisé par région. Et la division par région est liée au fait que nous n'avons pas de transport public, nous n'avons pas de train, il n'y a pas enfin, il y a des lignes de bus, mais ils sont pas très, très, très avancés. Nous n'avons pas de métro, il n'y a pas de tramway, il n'y a rien de ça. Donc, tout le monde se déplace en voiture. Et donc, si, par exemple, moi, j'ai pas de connexion familiale à Dahiyeh, donc le quartier, un des quartiers chiites un peu plus ou moins appauvris de Beyrouth, j'ai aucune raison de partir à Dahiyeh. J'y vais parce que j'ai de la famille là-bas, ou je vais à Tripoli au nord parce que j'ai de la famille là-bas, ou parce que tu vois, il y a une connexion, une certaine connexion. Donc le Liban, bien qu'il est assez petit, il est très très divisé par région, parce que tout l'espace est privatisé. Donc le Liban, c'est un pays où tu sens vraiment que qu'il ne t'appartient pas. Il appartient à ces élites sectaires, et que tu le veuilles ou pas, il faut que tu travailles avec eux, ou au moins que tu travailles au sein d'un système qui a été créé par ces élites de la guerre civile et de l'après-guerre, que tu le veuilles ou pas. Donc notre évolution, donc le côté réformiste, le côté révolutionnaire, ils sont bien sûr liés. C'est parce que c'est impossible de parler de l'injustice, de la corruption, sans parler du sectarisme. Et c'est impossible de parler du sectarisme sans parler de l'injustice, de la corruption. En ajoutant sur ça, c'est impossible de parler du sectarisme sans parler du sexisme. C'est impossible de parler du sectarisme sans parler de l'homophobie, sans parler du racisme. Ce sont des systèmes de pouvoir qui se maintiennent en divisant le reste de la population. C'est en même temps très compliqué et très simple.
Oui, je pense que c'est effectivement deux dimensions très importantes que tu soulignes. C'est-à-dire, d'une part, il y a un réel risque actuellement de contre-révolution, puisque les intérêts mis en cause dans ce soulèvement ne sont pas simplement, comme dans d'autres pays, ceux d'une personne et éventuellement de sa famille et de ses proches, comme par exemple la révolution contre Ben Ali ou contre Moubarak. Ce n'est même pas seulement contre l'intégralité de la classe politique, qui est déjà un type de soulèvement déjà beaucoup plus rare aujourd'hui, puisque toutes les classes politiques sont liées. C'est ça vraiment la particularité au Liban, c'est un petit peu un système où il n'y a pas d'opposition, d'une certaine manière. Toute l'élite politique, et d'une certaine manière, ne fait même pas semblant, entre guillemets, d'avoir des désaccords fondamentaux, puisque, entre guillemets, c'est vraiment un partage du pouvoir, presque un petit peu comme en Suisse. D'ailleurs, parfois, on compare le Liban à la Suisse aussi par rapport à ses caractéristiques économiques. Mais aussi, comme le système confessionnel, c'est le système, finalement, qui garantit des opportunités de profit assez importantes aux différentes bourgeoisies confessionnelles et même aux bourgeoisies internationales, la diaspora, la bourgeoisie du Golfe, etc. Eh bien, en fait, ce qui est remis en cause dans cette révolution, c'est aussi une forme de capitalisme spécifique au Liban, non pas peut-être le capitalisme en lui-même, ça on n'y est pas encore dans la révolution, mais au moins la forme de capitalisme particulière au Liban, puisque on remet en cause le partage non seulement du pouvoir des différentes bourgeoisies confessionnelles à partir des accords de Taïf, donc qui mettent fin à la guerre civile en donnant un petit peu plus de pouvoir au premier ministre sunnite, un petit peu plus de députés aux musulmans par rapport aux chrétiens, et aussi en donnant plus de pouvoir aux chefs du parlement chiites. Et donc, bon, bah, réciproquement, évidemment, les maronites ont perdu des députés, et le président maronite, qui était tout puissant avant les accords de Taïf, a quand même perdu pas mal de pouvoir. Mais donc, sur la base de ce compromis de Taïf, il y a eu non seulement un partage du pouvoir, mais aussi un partage des profits liés à la reconstruction, ce qui fait qu'on peut vraiment parler d'une sorte de bourgeoisie post-guerre civile, qui a fait énormément d'argent. Alors souvent, c'était une bourgeoisie qui était liée au Golfe, parfois, pour les Hariri, ou alors une bourgeoisie qui était liée aux profits de guerre. Hein, tu l'as dit toi-même. En fait, on peut dire que la bourgeoisie actuellement au Liban qui est au pouvoir, soit elle tient son argent de la guerre civile et son pouvoir aussi du fait qu'ils ont eu des milices dans la guerre civile, etc. Hein, c'est le cas pour le chef des forces libanaises, pour Michel Aoun, etc. Soit ils tiennent leur fortune voilà, du Golfe, c'est le cas de la famille Hariri. Et donc, ce que ce mouvement est en train de remettre en cause, finalement, c'est voilà, tous les intérêts économiques de la bourgeoisie libanaise de manière large, même si elle ne remet pas en cause directement le capitalisme, elle remet en cause énormément d'intérêts de la bourgeoisie. Et d'autre part, ce que ce soulèvement remet en cause aussi, et ça c'est intéressant que tu l'évoques, c'est aussi, même si le mouvement au début était un mouvement qui était contre le système confessionnel, ça remet en cause des éléments qui, comme tu le dis, sont en intersection avec le système confessionnel, c'est-à-dire le patriarcat, l'homophobie, le racisme anti-syrien et anti-palestinien, qui est intrinsèquement... Et tous ces aspects sont évidemment très liés au système communautaire, puisque, évidemment, le patriarcat ne peut qu'être renforcé dans le cadre d'une société où les gens sont assignés à leur communauté et ne doivent pas en bouger. Évidemment, on sait très bien que ce genre de logique favorise le patriarcat et l'homophobie. Et puis d'autre part, confessionnalisme est la raison principale pour laquelle les Palestiniens, qui pourtant peuvent être au Liban parfois depuis 1948, ne bénéficient toujours pas de droits politiques élémentaires, parfois ne peuvent pas accéder à une grande partie des emplois, etc., ne sont pas nationalisés. Les femmes au Liban, si elles sont mariées, une femme libanaise est mariée avec un homme d'une autre nationalité, ne peut pas lui transmettre sa nationalité parce que sinon ça remettrait en cause l'équilibre confessionnel, etc. etc. Donc on voit comment est-ce que finalement la remise en cause du confessionnalisme entraîne également la remise en cause voilà, de tout un tas de systèmes d'oppression et de discrimination qui lui sont directement liés.
Voilà, et on peut même parler un peu du fait que le sectarisme et sa connexion avec le sexisme, par exemple, ou le patriarcat, n'a même pas une sorte de logique interne. Donc, si on parle de la soi-disant logique pour laquelle, à travers laquelle, pardon, les femmes n'ont pas le droit de donner, de transmettre la nationalité à leur mari et à leurs enfants, le même, enfin, si moi, par exemple, en tant que citoyen libanais, si je me marie avec une femme non libanaise, elle devient libanaise. Donc le fait est donc elle devient libanaise et donc elle devient maronite par exemple. Donc même au sein de cette structure, il y a des contradictions qui sont en train qui continuent à la remettre en cause. Donc la remettre en question. Mais ce que je voulais aussi parler avant de j'ai oublié de le faire, de la connexion entre la guerre et l'après-guerre. Parce que on dit la guerre et l'après-guerre, la guerre civile et la phase d'après-guerre, juste parce que c'est plus simple d'en parler. Mais il n'y a jamais eu une sorte de coupure complète. Et le symbole le plus puissant, d'une façon, je suppose que ça, c'est le centre-ville de Beyrouth. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette réclamer les espaces publics a fait partie des revendications du premier jour. Et donc, il y a, par exemple, ce slogan, Esmal Balad, Mish Solidaire, ou Haydal Balad Mish Solidaire. Ça veut dire, on l'appelle El Balad. El Balad veut dire le pays, mais dans le monde arabe, ça dit en général le centre-ville, donc le centre-ville de la capitale. Et pas Solidaire. Solidaire, qui est la compagnie privée slash publique du gouvernement et notamment du premier ministre Rafik al-Hariri et puis de son fils Saad al-Hariri jusqu'à présent. Et donc Solidaire est d'un autre côté le littoral qui légalement ou dans la constitution est censé être un espace public. Le centre-ville et le littoral maintenant sont en majorité des espaces privés. Et donc une des parties, une des raisons pour laquelle je dis qu'il y a une dimension anticapitaliste, bien que la majorité des manifestants ne se sont pas adoptés ce titre, si vous voulez, c'est que pour combattre le capitalisme, il faut vraiment le combattre au niveau local. Et au Liban, la manifestation locale par excellence, c'est vraiment ça, c'est Solidaire. Le fait qu'il y ait un centre-ville qui nous appartient pas, le fait que, en gros, la capitale du pays n'appartient pas aux habitants du pays, n'appartient pas aux Beyroutis, aux BRT, comme on dit en arabe, a fait en sorte qu'il y a ce divorce entre notre vie quotidienne et une vie que on se dit, ou en tout cas qu'on nous dit, nous appartient. Donc il y a toujours eu ce divorce. Et je pense que ce divorce, nous sommes en train de le voir, en train de se manifester, voilà 50 jours.
Oui, c'est important effectivement que tu rappelles finalement aussi une des particularités du Liban, c'est que finalement, on est presque dans une société où il n'y a pas vraiment d'espace public, puisque finalement tout l'espace est privatisé ou communautarisé, les deux allant souvent de pair, puisque les espaces privés sont aux mains d'une bourgeoisie communautaire ou d'une autre. Et en fait, finalement, cette privatisation et cette communautarisation de la société libanaise, on la retrouve à tous les niveaux, même aussi en termes de services publics, puisque il n'y a pas vraiment... Enfin, au Liban, il y a des graves problèmes de services publics, par exemple... La fourniture d'électricité et d'eau est très déficiente. Il y a des coupures d'électricité qui vont de 3 à 12 heures par jour et qui créent des inégalités énormes, puisque évidemment, les riches et une partie des classes moyennes peuvent s'acheter des générateurs d'électricité privée, mais pas les pauvres. Voilà, il y avait aussi le problème de la gestion des déchets, qui avait fait l'objet de la contestation de 2015 auquel tu avais participé. Voilà, les différents services publics, les différents ministères, les hôpitaux, etc., sont accaparés, parfois même par des anciens chefs de guerre, des anciens miliciens, qui, du coup, ne donnent accès à la fois aux emplois de ces services publics et en même temps à ces services publics que sur une base clientéliste, communautaire, etc., etc., à la fois pour maintenir le caractère clientéliste et confessionnaliste de l'État, et en même temps pour garantir le fait que finalement les gens restent dépendants en fait des logiques communautaires. Alors évidemment, c'est peut-être une des tensions, je pense, du mouvement d'un point de vue, disons, anticapitaliste et révolutionnaire, c'est que à la fois la remise en cause du caractère confessionnaliste et clientéliste de l'État peut mener à une apologie d'un État neutre et objectif, type celui que soi-disant on a en France, comme il peut, au contraire, dans certaines portions du mouvement, mener plutôt à une forme d'autogestion et de création de services publics, entre guillemets, à la base, comme par exemple, on a vu dans le mouvement actuel, tu le dis dans ton article, évidemment, des cantines collectives, tout un tas de, évidemment, des services médicaux, tout un tas de choses qui viennent plutôt par en bas. Donc, il y a effectivement, une espèce de tension dans le mouvement par rapport à ça. Est-ce que peut-être tu peux dire quelque chose par rapport à ça qui renvoie à la question, je pense, plus large de quelque chose qu'on a évoqué tout au long de l'émission, c'est que finalement, on peut presque dire que dans le cas libanais, et comme d'ailleurs souvent dans tous les cas, le mouvement actuel n'a d'autre choix que de se radicaliser progressivement jusqu'à remettre en cause au moins la forme particulière du capitalisme libanais, puisque le mouvement va se heurter de front, tôt ou tard, non seulement à la classe politique et au système confessionnel, mais à tous les intérêts économiques qui vont derrière, ou alors subir une contre-révolution sur la base d'une division du mouvement réussi par les élites politiques, à la fois en termes de confession, mais aussi en termes de classe, puisque évidemment, les intérêts de la classe moyenne qui bénéficient quand même de leur insertion dans l'économie internationale et du prolétariat libanais qui est plutôt voilà, dans l'emploi informel, etc. Ils ne sont pas évidemment les mêmes. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces deux dimensions qui, je pense, sont assez articulées?
Oui, et je pense même qu'il y a aussi le risque, parce qu'en fait, quand on parle du prolétaire au Liban, il y a le prolétaire libanais, mais il y a aussi le prolétaire syrien, le prolétaire palestinien, le prolétaire éthiopien ou éthiopienne, d'ailleurs, philippine, etc. Parce qu'une grande partie de la classe populaire au Liban n'est pas libanaise, en termes de citoyenneté en tout cas. Ça a créé des problèmes niveau xénophobie et tout ça, bien sûr, mais ça a aussi créé une sorte de carte blanche pour le gouvernement, parce que c'est assez simple de dire, par exemple, vous n'avez pas de boulot parce que les Syriens sont en train de prendre vos boulots. Vous n'avez pas de boulot parce que les Palestiniens, etc., etc. Et donc, pour moi, la raison pour laquelle je pense qu'il y a le risque, comme vous l'avez dit, de la classe moyenne ayant des intérêts différents de la classe populaire, mais c'est aussi le fait que au sein de la classe populaire, il y a des divisions qui sont sévères. Ce sont des divisions qui sont pas évidentes à transcendre, parce que, par exemple, si une personne fait partie de la classe populaire chrétienne des montagnes, donc ou ma famille, donc celle de ma famille, disons, c'est assez simple, c'est assez très facile pour le système, pour le gouvernement, de dire bon, vous êtes pas riche, mais au moins vous êtes pas entouré de Syriens, mais au moins vous êtes pas entouré de Palestiniens, mais au moins vous êtes pas entouré de sunnites, de chiites, de druzes, etc. Et jusqu'à présent, ça marche. C'est quelque chose qui marche. Ça marche parce que le Liban, comme on a dit, est divisé par région, et c'est une façon de diviser les choses qui est la seule chose, disons, qui marche d'une façon ou d'une autre.
Les divisions dont on parle depuis le début, ce sont à la fois des divisions qui sont certes instrumentalisables et instrumentalisées par les élites confessionnelles, mais c'est aussi des divisions réelles, des divisions de classe, de genre, de communauté, de nationalité. Et donc, finalement, le pouvoir politique, la bourgeoisie, les bourgeoisies confessionnelles peuvent s'appuyer sur des éléments réels et tangibles qui font qu'effectivement, à l'intérieur du système politico-économique libanais tel qu'il existe aujourd'hui, les gens n'ont effectivement pas tous les mêmes intérêts dans ce mouvement. Et donc, finalement, le mouvement va devoir continuer perpétuellement de l'avant, parce que s'il s'immobilise, ces divisions réelles vont revenir sur le devant de la scène, puisque quand le mouvement révolutionnaire s'arrête, voilà, c'est la société réellement existante qui reprend le dessus, et donc les appartenances communautaires, et donc l'appartenance de classe, etc. Ce qui fait que d'une certaine manière, le mouvement n'a d'autre choix pour éviter une contre-révolution et le retour des appartenances confessionnelles, les contradictions voilà, entre la classe moyenne et le prolétariat, etc., que d'aller toujours plus loin dans une remise en cause de la société libanaise réellement existante, puisque sinon ce sera effectivement très facile à la contre-révolution des partis confessionnels au pouvoir et à la bourgeoisie d'appuyer sur ces divisions réellement existantes. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est un bon mot de la fin, mais comme très souvent, hic rhodus, hic salta. C'est ici qu'est la rose, c'est ici qu'il faut danser. Donc c'est voilà une célèbre phrase de Marx, voilà, qui veut dire que en fait, la révolution n'a d'autre choix que de s'approfondir continuellement et aussi d'affronter de face ces contradictions de genre, de classe, etc., etc., et de les faire éclater. Sous peine, en fait, de subir une contre-révolution. Voilà, bon, évidemment, on n'est pas des prophètes, donc on ne peut pas vraiment dire comment ça se passera. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est important, effectivement, de souligner la nécessité pour le mouvement de continuer à aller de l'avant, même s'il y a déjà des choses très encourageantes. Le caractère directement transrégional et transconfessionnel, et aussi, avec des hommes et des femmes, des homosexuels, des hétérosexuels, etc., du mouvement d'emblée, et puis après, de plus en plus, par exemple, de plus en plus d'expressions féministes, il y a même des slogans, comme tu dis dans ton article, qui ont été changés pour enlever leur connotation sexiste, etc., etc.
Oui, et je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que, en plus de ce qu'on vient de dire, que Hassan Nasrallah, le leader de Hezbollah, a dû réaffirmer, je pense, c'était son troisième discours ou second discours, parce que je pense qu'il a parlé genre quatre fois en un mois, là. Il a dû réaffirmer à ses supporters, il leur a dit littéralement que même si le gouvernement libanais disparaît, vous aurez toujours vos salaires. Et je trouve que c'est assez intéressant qu'il a senti le besoin même de dire ça. Déjà, c'est pas certain que c'est vrai, qu'il a raison, qu'il est en train de dire la vérité, disons, parce que on sait pas, parce que leur salaire vient de l'Iran, évidemment, donc on sait pas si la situation en Iran continue comme elle est en train de continuer maintenant, si ça continuera d'être vrai. Et c'est de la même façon, on a vu que ça s'est déjà passé avec Saad Hariri, parce que lui qui est aussi citoyen de l'Arabie Saoudite, il dépend notamment de l'Arabie Saoudite, et les nouvelles priorités de Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite ont fait en sorte, entre autres facteurs, que Saad Hariri a perdu à un certain pourcentage de ses fonds. Ce qui veut dire qu'il est moins riche qu'il était avant et qu'il a perdu un certain pourcentage de son influence. Mais ce qui montre que, par exemple, quand il a démissionné, il y a eu des célébrations à Saïda, donc Sidon en français, je pense, et à Tripoli au nord, qui sont deux villes qui sont notamment censées être des bases de support pour son mouvement et pour sa personnalité en lui-même. Et le fait que ça, c'est en train d'exister, et en plus de ça, et le fait qu'il y ait toujours des manifs au sud et dans la Beka, surtout au sud et dans la Beka, et donc au sud, c'est pas juste Nabatieh qui est au sud-sud, mais au sud, genre Tyr, donc Sour en arabe, la ville au littoral du sud, et dans la vallée du Beka, donc Baalbek, Zahleh, etc.
Qui sont des zones, pour préciser, qui sont à majorité chiite.
Oui, la majorité d'entre eux sont à majorité chiite. Zahleh est un peu plus mixte, mais Baalbek, Nabatieh, Tyr, oui, sont à majorité chiite. Nous sommes en train de voir une sorte de résistance au sein de la résistance, si tu veux, parce que bien sûr, Hezbollah se donne le titre de résistance, mais nous sommes en train de voir une sorte de séparation ou de divorce encore entre le concept de résistance, donc le concept de résister contre l'oppression, contre une occupation, contre etc., et l'idée que la résistance est le domaine privé du Hezbollah. Et donc ça, c'est en train de changer, c'est en train de changer très lentement, mais pour donner un exemple assez optimiste, ou plutôt qu'il y a des connotations optimistes. Quand il y a eu l'attaque, donc je pense que c'est la première semaine ou la seconde semaine, des membres du Hezbollah et de Hamas contre les manifestants au sud à Nabatieh, le prochain jour, il y a eu donc la manif était encore plus grande qu'elle était quand les attaques ont eu lieu. Et un des slogans qui a été utilisé par les manifestants, c'est que Donc, les habitants de Nabatieh ne s'agenouillent pas, demandez aux sionistes. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que sionistes, donc l'État d'Israël dans ce cas-là, ils ont fait référence à l'occupation israélienne qui, évidemment, fait partie ou même est centrale au sein du mythe du Hezbollah, sans mentionner Hezbollah. Et ils ont même, d'une façon, sans le dire explicitement, ils ont même comparé l'occupation israélienne à la politique du Hezbollah. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable à voir, parce que c'est pas quelque chose que même moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'on verra un jour où ce serait possible.
C'est là où, effectivement, même si finalement toute l'agitation sociale et politique qu'il y a au Liban actuellement peut faire penser par certains aspects à toute l'agitation sociale et politique qu'il y avait au Liban dans les années 60-70, et donc du coup on pourrait se dire bon bah ça, c'est pas sûr que ça va finir bien, et effectivement là on n'est pas sûr que ça finira bien, hein, ça peut finir en contre-révolution, en guerre civile, comme n'importe quel mouvement de ce type. Mais effectivement, dans les années 60-70, cette dimension, disons, de s'attaquer explicitement voilà, au système confessionnel, et que ce soit le cas dans toutes les confessions, est effectivement quelque chose de relativement inédit. Et donc, effectivement, on ne peut qu'espérer que ce mouvement continuera dans cette voie transconfessionnelle et aussi commencera à faire éclater matériellement même la base et la structure même de ce confessionnalisme, c'est-à-dire le caractère confessionnel de l'État et du capitalisme au Liban. Donc en tout cas, bah, merci beaucoup Joey de nous avoir parlé du Liban, de la révolte au Liban à l'heure actuelle contre le système confessionnel et de nous avoir fourni à la fois des éléments sur ce qui se passe actuellement au Liban, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui pourrait se produire et puis aussi comment est-ce qu'on en est arrivé là sur la genèse à la fois du système confessionnel au Liban et puis aussi de la configuration actuelle de ce système confessionnel. Donc on invite vivement ceux qui lisent l'anglais à lire ton article donc qu'on mettra en lien sur notre site. Et puis on invite aussi les gens qui voudraient continuer à s'informer sur cette question à te suivre, notamment sur Twitter ou dans tes différentes contributions. Donc, merci beaucoup Joey.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.